Bien, bonjour à tous et surtout bonjour à ceux et celles que je n'ai peut-être pas eu l'occasion de saluer ce matin. J'espère faire plus ample connaissance avec vous à la suite de ce culte et peut-être du repas que nous avons par la suite. Je n'oublierai jamais, jamais le jour où nous avons rendu visite à Émilie, nous, Meg et moi-même. Émilie, une amie qui fut victime d'un terrible accident de voiture il y a 2 ans. Quand nous sommes allés la voir à l'hôpital, c'était à Paris, elle était dans un état absolument catastrophique. Elle ne pouvait plus parler et il était strictement impossible de savoir si elle nous entendait, si elle comprenait ce qu'on lui disait. Tout ce que nous avons pu faire, c'est prier pour elle. Tout ce que nous avons pu faire, c'est prier pour elle. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce genre de situation, mais que dire? Que dire à ceux qui souffrent et qui sont peut-être sur le point de mourir? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'il faut ne surtout pas leur dire? Que dire à ceux qui souffrent? Job, comme vous le savez peut-être, est un homme qui, dans la souveraineté du Seigneur, a tout perdu. Ses biens matériels, ses enfants, sa santé, alors qu'il n'a strictement rien fait pour mériter ça. Si vous lisez le prologue du livre de Job, vous constatez que c'est un homme intègre et droit de l'aveu même de Dieu, et qu'il n'a strictement rien fait pour mériter ça. Mais dans son malheur, Job a 3 amis. Qui viennent le consoler, Eliphaz, Bildad et Tsophar. Le problème, c'est que Job est strictement inconsolable. C'est un homme broyé par la douleur et qui, après avoir fait preuve d'une attitude absolument remarquable, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'attitude de Job, que nous avions qualifiée de jobesque, tant elle était particulière, après avoir tout perdu, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel sois béni. C'est un homme qui, après avoir fait preuve d'une attitude absolument remarquable, exemplaire, commence à craquer. Au chapitre 3, il se plaint d'être né, il maudit le jour de sa naissance et conteste vigoureusement la façon dont Dieu gère le monde et lui reproche même de lui avoir donné une existence difficile à vivre. Question, comment ses amis vont-ils réagir à partir de ce moment-là? Que vont-ils lui dire? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir ce matin en prenant l'avion, si le volcan islandais nous le permet, pour faire un petit survol des chapitres 4 à 27 du livre de Job. C'est un projet audacieux, vous allez me dire, 24 chapitres en 20 à 25 minutes. Mais comme disait Marcel Proust dans l'un de ses ouvrages, écoutez bien, l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Je vous propose donc de profiter de cette occasion et de commencer par la prière. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, c'est avec crainte et tremblement que nous nous approchons de toi. Tu es le maître de l'univers, le Dieu saint, 3 fois saint, nous l'avons chanté. Tu es grand et tellement redoutable. Mais c'est aussi avec une grande assurance que nous nous approchons de toi, Seigneur. Tu es Dieu juste, rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Alors, à l'heure où nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, la Bible, veuille, s'il te plaît, nous t'en supplions, ouvrir nos cœurs et les remplir de ton esprit pour nous aider à être attentifs, à comprendre ce que tu veux nous dire, à te faire confiance et à t'obéir. Tout cela, nous le prions au nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle qu'au dos des bulletins que vous avez, je l'espère, entre vos mains, il y a le plan de ce message qui, je l'espère, vous aidera à suivre ce que nous allons dire. J'ai 3 choses à dire ce matin. Premièrement, nous allons voir l'attitude des amis de Job. Dans un second temps, nous verrons la théologie des amis de Job. Dans un troisième temps, nous verrons les erreurs des amis de Job, l'attitude des amis de Job, la théologie des amis de Job et les erreurs des amis de Job. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Job en entier, 42 chapitres, c'est un gros livre, un livre important, mais dans les chapitres 4 à 27, les chapitres que nous allons survoler, nous avons en fait trois cycles de discours dans lesquels alternent les discours d'un ami et de la réponse de Job. Vous voyez, donc on a trois cycles de discours. Premier cycle de discours, intervention d'un ami, réponse de Job. Intervention d'un ami, réponse de Job. Deuxième cycle de discours, on prend les mêmes et on recommence. D'accord ? Intervention d'un ami, réponse de Job. Intervention d'un ami, réponse de Job. Troisième cycle de discours, intervention d'un ami, réponse de Job. Et puis ce discours sera interrompu au chapitre 28. Si vous avez lu ces chapitres 4 à 27, si vous avez déjà rencontré les amis de Job, il se peut, peut-être, que vous avez eu l'impression que leur attitude, je parle de leur attitude, est invariablement rigide et bornée du début à la fin. C'est peut-être l'impression que vous avez eue, que leur attitude est rigide et bornée du début à la fin, du chapitre 4 à 27. La première chose que j'aimerais essayer de vous montrer, ce matin de nous montrer, c'est que, en fait, une lecture attentive du premier cycle de discours et des différents cycles de discours montre que ce n'est peut-être pas le cas. Je vous propose de découvrir dans un premier temps une évolution, une progression dans l'attitude des amis de Job au fil des discours et ce en fonction des réactions de Job. Premièrement, de la solidarité à l'encouragement. Regardez Job chapitre 2, versets 11 à 13. Job vient de tout perdre, ses biens matériels, ses enfants, sa santé, ses amis arrivent. Job chapitre 2, versets 11 à 13. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qui l'avaient frappé. Il s'agissait d'Éliphaz de Théman, de Bildad de Suach et de Tsophar de Naama. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point la douleur était grande. Premièrement, de la solidarité à l'encouragement. Vous constatez, selon ces versets, que dans un premier temps, les amis de Job font preuve d'une grande et d'une authentique solidarité. Ils se concertent pour aller consoler leur ami, après avoir appris ce qui lui était arrivé. Mais cette solidarité, et c'est très intéressant, cette solidarité va progressivement se transformer en encouragement. Encouragement dû à la prospérité et au bonheur que Job, un homme juste, un innocent, va retrouver. Regardez ce que dit Éliphaz, chapitre 4, le premier ami de Job, qui intervient dans le premier cycle de discours. Éliphaz, chapitre 4, versets 6 à 7. Éliphaz, chapitre 4, versets 6 à 7. Job, ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de ta conduite? Cherche donc dans ton souvenir quel est l'innocent qui est mort. Où a-t-on vu disparaître les hommes droits? Autrement dit, Job, courage, courage mon ami. Tu n'as absolument aucune raison de désespérer. Aucune. Tu es un homme intègre et droit. Ton intégrité est, EST, ton espérance. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Pourquoi? Parce qu'il ne fait jamais mourir l'innocent. Courage. Regardez ce que dit Bildad au chapitre 8, des versets 5 à 6. Deuxième ami de Job. Bildad, chapitre 8, versets 5 à 6. Mais toi, Job, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur, et il restaurera le domaine qui habitera ta justice. Courage, Job, courage, ne désespère pas, demande à Dieu de t'aider, implore sa grâce et fais-lui vraiment confiance. Tu verras, si tu es juste, il restaurera ton bonheur et ta prospérité. Tsophar, chapitre 11, nous progressons dans le premier cycle de discours, les versets 13 à 19. Tsophar, chapitre 11, versets 13 à 19. Quant à toi, Job, si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de tâches, tu seras ferme et sans peur, tu oublieras tes souffrances, tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin. Tu reprendras confiance parce qu'il y aura de l'espoir. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter et beaucoup, beaucoup rechercheront ta faveur. Vous voyez comment progressivement nous passons de la solidarité à l'encouragement. Mais Job refuse, il refuse de se laisser encourager. Il reproche même à ses amis de manquer de compassion et de l'avoir trop trahi. C'est ce qu'il dira au chapitre 6. Il continue à se plaindre, il clame haut et fort son innocence. Il n'a rien fait pour mériter ça. Et commence même à faire des reproches à Dieu. Regardez ce que dit Job au chapitre 13. Au verset 26 et 27, en réponse à ce que tous ses amis lui ont dit. Job, chapitre 13, versets 26 et 27. « Dieu, en effet, tu écris contre moi des paroles amères. Tu m'es fait payer les fautes de ma jeunesse. Tu mets mes pieds dans des entraves. Tu surveilles tous mes mouvements. Tu suis de près les traces de mes pas. » Et vous voyez cette réaction de Job qui commence à faire des reproches à Dieu, insidieusement, va amener ses amis dans le deuxième cycle de discours à passer de l'encouragement à l'avertissement. Ça va pour l'instant de la solidarité à l'encouragement, de l'encouragement à l'avertissement dans le deuxième cycle de discours des chapitres 15 à 21. Là, sans suggérer que Job est vraiment coupable, ses amis vont juger les propos de Job envers Dieu irrespectueux. D'accord ? Et ils vont l'avertir du destin tragique qui attend tous ceux qui tiennent de tels propos. Regardez ce que dit Eliphaz encore, au début du deuxième cycle de discours, au chapitre 15, des versets 11 à 13. Encore une fois, c'est très intéressant comment son attitude a évolué. Chapitre 15, versets 11 et 13. « Job, considères-tu comme insignifiantes les consolations de Dieu et les paroles qu'on t'adresse avec douceur ? Où ton cœur t'entraîne-t-il ? Et que signifie ce clignement de tes yeux ? Oui, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que tu avances de pareils discours. » Et puis regardez ce qu'il dit au verset 20 de ce même chapitre 15. « Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont réservées à l'homme violent. » Et puis regardez ce que dit Sophar un peu plus loin au chapitre 20, des versets 4 à 5. Encore une fois, c'est très intéressant de voir comment son attitude a évolué. Job, ne sait-il pas que depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été de courte durée et la joie de l'impie momentanée ? Vous voyez comment les amis de Job sont passés de l'encouragement, tout d'un coup, à l'avertissement. Mais Job, encore une fois, refuse de se laisser avertir. Il reproche même à ses amis d'être de piètres consolateurs, au chapitre 16, et de les tourmenter, chapitre 19. Il continue à clamer son innocence. Il n'a rien fait pour mériter ça. Et c'est vrai, le but du prologue est de nous montrer que Job est innocent, et que sa souffrance est parfaitement innocente. Il continue à clamer son innocence, et va commencer, de manière un peu plus explicite, à accuser Dieu d'injustice. Regardez ce que Job dit au chapitre 19, en réponse à ce que ses amis lui ont dit dans le deuxième cycle de discours. Job, chapitre 19, versets 1 à 12. Dieu, pardon, il parle en premier aux amis de Job. « Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours ? Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de m'adresser de cette manière ? M'agresser de cette manière, pardon ? Même si j'avais vraiment commis une faute, cela ne regarderait que moi. » Si vous voulez vous grandir à mes dépens, si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur, sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. Il m'a barré la route et je ne peux pas passer. Il a couvert mes sentiers de ténèbres. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a retiré la couronne de ma tête. Il m'a brisé à tout point de vue et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses adversaires. Ses troupes viennent en masse. Elles ont construit une route jusqu'à moi. Elles ont installé leur camp autour de ma tente. Fort, n'est-ce pas ? Et là, comme on dit en français, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette réaction de Job, qui commence à accuser Dieu ouvertement d'injustice, va amener ses amis, et Eliphaz notamment, dans le dernier cycle de discours, des chapitres 22 à 27, à passer de l'avertissement à l'accusation. Vous voyez l'évolution, premièrement de la solidarité à l'encouragement, de l'encouragement à l'avertissement, et de l'avertissement à l'accusation ouverte. Regardez ce que dit Eliphaz au chapitre 22, des versets 5 à 10. Job, n'as-tu pas fait beaucoup de mal ? Accusation. Tes fautes ne sont-elles pas sans limite ? En effet, sans raison, tu réclamais des gages à tes frères, tu privais de leurs habits ceux qui étaient presque nus, tu ne donnais pas d'eau à l'homme épuisé, tu refusais du pain à l'homme affamé, la terre appartenait au plus fort et c'était le favoritisme qui permettait de s'y installer. Tu renvoyais les veuves les mains vides, les bras des orphelins étaient brisés. Voilà pourquoi tu es entouré de pièges et la terreur s'est tout à coup emparée de toi. Et ce que dit Eliphaz est strictement faux. Job est innocent. Dieu le déclarera de sa propre aveu dans le prologue et dans l'épilogue. Premièrement donc, l'attitude des amis de Job. D'accord, de la solidarité à l'encouragement, de l'encouragement à l'avertissement et de l'avertissement à l'accusation. Deuxièmement, comme il est écrit au dos de vos bulletins, leur attitude, que nous qualifierons de rétributive. Premièrement, nous avons vu leur attitude d'évolutive. Deuxièmement, leur théologie rétributive. Le principe absolument fondamental sur lequel repose toute l'argumentation des amis de Job n'est autre que le principe de rétribution, selon lequel Dieu agit envers les êtres humains en fonction de leur attitude. Autrement dit, toute épreuve et toute souffrance dans la vie est le résultat, la conséquence d'une faute particulière, d'un péché spécifique. Dieu récompense ceux qui font le bien et punit ceux qui font le mal. Dieu ne peut pas, selon les amis de Job, infliger un châtiment immérité à un innocent. C'est pas possible. Dieu n'est pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il est juste. C'est ce que dit Eliphaz au chapitre 4 et au verset 7, un verset que nous avons déjà lu, que je vous invite à relire. Chapitre 4, verset 7. « Cherche donc, Job, dans ton souvenir, quel est l'innocent qui est mort ?» C'est une question rhétorique. Aucun innocent n'est mort, selon lui. Deuxième question rhétorique. « Où a-t-on vu disparaître les hommes droits ?» Nulle part. Les hommes droits ne disparaissent pas. C'est ce que dira Bildad de manière encore plus explicite au chapitre 8. Des versets 1 à 4, regardez, Bildad a tout compris. Il sait pourquoi Job souffre et pourquoi ses enfants sont morts. Bildad, chapitre 8, versets 1 à 4. « Jusqu'à quand veux-tu lancer de telles affirmations, Job ? Les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. Dieu fausserait-il le droit ? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice ? Si tes fils ont péché, écoutez bien, si tes fils ont péché, Job, contre Dieu, il les a livrés aux conséquences de la révolte. Ce qui, encore une fois, est totalement faux. Job a fait des sacrifices parce qu'il était conscient que ses enfants avaient peut-être péché. Ils sont innocents aux yeux de Dieu. La théologie des amis de Job rétributive, la logique de ce raisonnement est tellement implacable que Job lui-même semble être convaincu et semble partager cette même théologie. Regardez ce que dit Job au verset 13, au chapitre 13, des versets 26 à 27. Job, chapitre 13, versets 26 à 27. « Dieu, en effet, tu écris contre moi des paroles amères, tu me fais payer les fautes de ma jeunesse. » C'est un verset que nous avons déjà lu, mais vous voyez comment Job commence à partager la conviction de ses amis. Tu mets mes pieds dans des entraves, tu surveilles tous mes mouvements, tu suis de près les traces de mes pas. La théologie des amis de Job, rétributive, qu'en pensez-vous, que pensez-vous de la théologie, du principe de la rétribution après tout, les amis de Job ont peut-être raison. Il est très intéressant de noter que, avant de prêcher sur les amis de Job, Jean Calvin, que nous ne présentons plus, et qui a fait une série de 159 prédications sur le livre de Job, rassurez-vous, nous n'en ferons pas autant, prenait toujours le soin de préciser que leur théologie était correcte en elle-même, mais que les amis de Job se trompaient dans l'usage qu'ils en faisaient. Et il avait raison. Ce n'est peut-être pas délibéré de leur part, mais les amis de Job se sont lourdement trompés. Ils n'ont pas parlé de Dieu correctement. Et ce jugement, ce n'est pas le mien, c'est celui de Dieu lui-même. Regardez ce que Dieu pense des amis de Job dans l'épilogue du livre, au chapitre 42, au verset 7. Regardez ce que Dieu pense. C'est très intéressant d'avoir la pensée de Dieu sur ce que les amis de Job pensent de lui. Après avoir adressé ces paroles à Job, Dieu vient de répondre à Job dans les derniers chapitres. L'Éternel dit à Eliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et puis de le répéter à la fin du verset 8, « En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Alors pourquoi les amis de Job n'ont pas parlé de Dieu correctement? Quelles sont leurs erreurs? Eh bien, c'est ce que je vous propose de considérer dans la troisième et la dernière partie. Les erreurs des amis de Job. Exclusives. Exclusives dans le sens où elles consistent à exclure, à oublier trois choses absolument fondamentales dans la vie chrétienne. Première erreur des amis de Job, pas d'attente. Pas d'attente. Dans leur théologie, il n'y a pas de place pour l'attente du jugement de Dieu. Le principe de rétribution est une règle absolue qui s'applique de manière immédiate et mécanique dans la vie présente. Dieu est un peu comme un distributeur de boissons. Pour moi, ce sera un coca, personnellement. Mais Dieu est un peu comme un distributeur de boissons. D'accord? Vous faites une bonne action, vous obtenez une canette de bénédiction, distributeur de boissons. Vous faites une mauvaise action, vous obtenez une canette de malédiction. Dieu est comme ça, c'est comme un peu un distributeur de boissons. Mais les choses sont-elles aussi simples? Je vous le demande. Les choses sont-elles aussi simples? D'une part, Dieu ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Sinon, cette salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui et le monde dans lequel nous vivons ressemblerait à un vaste cimetière. Pardonnez-moi de le dire, si Dieu tenait compte de toutes nos fautes, de tous nos péchés, de ce dont nous avons parfaitement conscience, de ce qu'on ignore, personne ne vivrait. Personne. D'autre part, la réalité du monde dans lequel nous vivons témoigne, et vous connaissez peut-être des personnes dans ce cas-là, témoigne que certaines personnes prospèrent alors qu'elles n'ont aucun respect pour Dieu, et que d'autres souffrent terriblement alors qu'elles le craignent et qu'elles n'ont strictement rien fait pour mériter ça. Et Job en est la preuve vivante. Alors si nous sommes un jour dans la peau des amis de Job, et peut-être que vous l'avez déjà été, que dire à ceux qui souffrent? Que dire? Je pense que les erreurs des amis de Job nous invitent vraiment à la prudence, à une très grande prudence. Ne faisons pas du principe de rétribution une règle absolue qui s'applique de manière immédiate et mécanique dans la vie de ceux qui souffrent. Soyons très prudents. Et si nous sommes un jour dans la peau de Job, si vous avez déjà souffert dans votre vie, soyons vraiment lucides. Soyons vraiment lucides. Sachons discerner les dangers d'une généralisation à outrance de ce principe de rétribution. Quand les autres l'appliquent de manière absolue, dans notre propre vie, nos souffrances ne sont pas nécessairement les conséquences d'un péché spécifique. C'est pas vrai. Jésus réfutera cette possibilité dans Jean 9, notamment, dans l'épisode de l'aveugle né. Dans la vie, il y a des souffrances qui s'expliquent, c'est vrai, mais il y a aussi des souffrances qui ne s'expliquent pas et dont nous serons un jour libérés, délivrés, le jour du jugement, le jour où Jésus reviendra, pour rendre la justice de manière définitive, pour rétablir l'ordre des choses une bonne fois pour toutes, pour essuyer les larmes de nos yeux, pour mettre un terme à la souffrance et à la mort. En attendant ce jour, Dieu nous demande de faire preuve de patience. Première erreur des amis de Job, pas d'attente. Deuxième erreur des amis de Job, pas de Satan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et si vous lisez les discours des amis de Job, je vous propose d'en le découvrir par vous-même, mais pas un mot sur le diable dans le discours des amis de Job. Dans leur théologie, il n'y a pas de place pour Satan. Pour eux, le mal est un phénomène purement humain, sans aucune dimension spirituelle. Or, encore une fois, nous savons, grâce au prologue du livre de Job, les chapitres 1 et 2, que ce n'est pas le cas, que le mal est aussi l'œuvre de ce que la Bible appelle le diable. Une créature soumise à Dieu, Martin Luther avait l'habitude de dire que le diable était le diable de Dieu, dans le sens où c'était une créature qui était soumise à Dieu, mais qui se voyait parfois accorder des permissions terrifiantes dans le cadre de la toute-puissance et de la souveraineté de Dieu. Et ça, les amis de Job n'en ont pas du tout conscience. Pas du tout. Alors si un jour nous sommes confrontés à la souffrance, notre propre souffrance, ou la souffrance des autres, n'oublions jamais que nous avons un ennemi. Et que nos souffrances, encore une fois, ne sont pas nécessairement les conséquences de notre désobéissance, mais les conséquences de son influence, de l'influence du diable dans le monde que Dieu permet parfois, dans sa mystérieuse souveraineté. Pas de Satan, pas d'attente. Dernière erreur des amis de Job, et la plus grave, pas de croix. Dans la théologie des amis de Job, il n'y a pas de croix. La plus grave erreur des amis de Job consiste à dire qu'un homme juste et innocent ne peut pas souffrir, que Dieu ne permet pas aux hommes de souffrir injustement. Pourquoi ? Vous l'avez peut-être compris, parce que ça fait tache, parce que ça gâche le paysage moral de l'univers, parce que ça remet en question la façon dont Dieu gère le monde et par conséquent, sa justice. Dieu ne peut pas infliger un châtiment immérité à un innocent. C'est pas possible. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est juste. Permettez-moi de vous dire que si cette conception de Dieu est juste, je tremble. Je tremble. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu, un jour, n'avait pas permis dans sa souveraineté qu'un homme juste, innocent, soit crucifié et meure injustement, nous ne serions pas là ce matin. Il n'y aurait pas de pardon possible. Si dans sa souveraineté, Dieu n'avait pas permis que son Fils, le Seigneur Jésus, le juste, l'innocent par excellence, souffre et soit crucifié à la place des injustes, des coupables que nous sommes, nous serions encore sous le poids de nos péchés. La croix sur laquelle Jésus a été condamné à notre place, parce qu'il portait le poids de nos péchés, est en effet le moyen que Dieu a utilisé pour nous offrir gratuitement, pour offrir gratuitement à tous ceux qui se repentent et qui placent leur confiance en lui, d'être pardonnés gratuitement de leurs péchés, d'être justifiés à ses yeux. Alors que dire à ceux qui souffrent? Que dire? Peut-être ceci finalement. Peut-être ceci. Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, a souffert par amour pour nous et n'est pas indifférent à nos souffrances. Il en lui-même souffert, il est capable de compatir nos souffrances et nous invite à nous approcher de lui pour trouver la compassion et la grâce dont nous avons besoin. Ce Dieu est-il le vôtre? Ce Dieu de toute grâce et de toute compassion est-il le vôtre? Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, si tu comptais, si tu tenais compte de toutes nos fautes, qui pourrait subsister? Qui vivrait? Personne. C'est par pure grâce que tu nous as pardonnés par le moyen de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, mort à notre place pour nos péchés et ressuscité pour notre espérance vivante. Aide-nous, s'il te plaît, à ne pas commettre les mêmes erreurs que les amis de Job, à ne pas parler de toi incorrectement, à ceux qui souffrent notamment, mais à t'honorer dans la façon dont nous leur parlons. Nous te louons de tout notre cœur, toi le Dieu de toute grâce, de toute compassion, auprès duquel nous pouvons venir, duquel nous pouvons nous approcher avec confiance, parce que tu compatis à nos souffrances, parce que tu fais grâce et que tu es compatissant. Au nom de Jésus, Amen.